Et dans l'actualité des idées toute cette semaine, à la veille du Conseil européen des 10 et 11 décembre, la parole à nos voisins. La Belge Chantal Mouffe, l'Italien Biffo, le Britannique Robert Toms. Et pour commencer, la crise sanitaire. A-t-elle rapproché le couple franco-allemand, relancé la coopération? Invité Daniel Cohn-Bendit, incarnation de la double culture européen convaincu, tendance social-libérale, partisan d'une union approfondie. En septembre dernier, l'ancien eurodéputé vert plaidait dans les colonne du Monde, avec le chercheur Klaus Leggevi pour une fédération franco-allemande. Bonjour Daniel Cohn-Bendit.
Bonjour.
Merci à vous d'être avec nous. Vous auriez pu être en France avec votre pied gauche. Vous êtes à Francfort avec votre pied droit. Vous êtes, je le disais, un Européen convaincu et vous incarnez aussi cette Europe dans votre corps avec cette double culture que vous avez portée jusqu'au sein du Parlement européen puisque vous avez été une fois eurodéputé pour la France, une fois eurodéputé pour l'Allemagne, écologiste toujours. Comment allons-nous, Daniel Cohn-Bendit, j'avais envie de vous poser cette question en ouverture, ce nous, Européens peut-être, à vos oreilles?
Écoutez, c'est difficile. On est dans une situation difficile. La pandémie touche tout le monde. Elle ne connaît pas de frontières. Et ce qui est intéressant quand on voit ces derniers jours, c'est que on n'arrive pas à maîtriser la pandémie. Pendant la première vague, on avait cru que l'Allemagne s'en tirait mieux, ce qui était vrai en voyant les chiffres. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. L'Allemagne n'arrive pas à baisser radicalement la contamination, la France non plus, et c'est inquiétant parce que cela veut dire que nos gouvernements français, allemands, devront continuer à improviser.
Alors la preuve en est pour ceux qui diraient que le centralisme à la française n'a pas permis une aussi bonne gestion de la crise que le fédéralisme à l'allemande, que ça ne tient peut-être pas qu'à ça, qu'au modèle de nos États. On va y revenir avec cette proposition que vous faisiez dans les colonnes du Monde avec Klaus Leggevi, d'une fédération franco-allemande, ce qui serait une autre étape à passer. Mais est-ce que déjà vous avez le sentiment quand même que cette crise sanitaire, Daniel Cohn-Bendit, a renforcé l'axe Paris-Berlin?
La crise sanitaire a renforcé, en fait, d'un certain, si vous voulez, l'Union européenne. Enfin, renforcé le besoin d'Union européenne. Et on le voit maintenant avec l'acquisition de la capacité de vacciner. C'est l'Union européenne, enfin, qu'on a délégué à l'Union européenne, et la France et l'Allemagne ont beaucoup poussé à l'acquisition des vaccins, parce qu'aucun pays n'aurait été capable sur le marché mondial d'acquérir autant de vaccins. Ce qui est difficile, c'est que au moment où la pandémie prend vraiment, eh bien, il est compréhensible que les États européens se referment à l'intérieur de leurs frontières, parce que tant qu'on n'arrive pas à avoir exactement les mêmes mesures au niveau européen et le même encadrement de la pandémie, les frontières gardent une certaine, capacité de protéger. C'est ça qu'on a découvert, enfin redécouvert, si vous voulez, pendant cette pandémie.
Et les Européens n'ont pas attendu la question du vaccin pour se renationaliser, d'une certaine manière.
Attention, il faut faire attention. Il faut faire attention. La santé n'est pas une compétence européenne. C'est-à-dire que vous avez, vous pouvez dire, l'environnement est une compétence européenne. La santé, non. La santé est une compétence nationale. Et donc, au moment où vous avez cette épidémie, il est très difficile pour l'Europe, il a été très difficile pour l'Union européenne, de coordonner les politiques, étant donné que les politiques ou les décisions des gouvernements étaient eux-mêmes des décisions improvisées. Il n'y avait pas une logique qui permettait d'imposer une certaine politique. Et donc, c'est pour ça que l'Europe s'est renationalisée avec cette pandémie en ce qui concerne la santé.
On va écouter justement les mots de Ursula von der Leyen. Le 2 décembre, elle parlait de la coordination sur les questions de santé. On l'écoute.
We have established an unprecedented cooperation.
Nous avons établi une coopération sans précédent en Europe sur les questions de santé. En novembre, nous avons mis en place la première étape pour établir une Union européenne de la santé. Nous aurons maintenant un plan de préparation et de réponse à l'échelle de l'Union européenne. Cela nous aidera à harmoniser les plans nationaux, y compris des audits et des tests de résistance par la Commission européenne. Nous voulons permettre de déclarer, si nécessaire, un état d'urgence de santé de l'Union européenne et cela déclencherait une meilleure coordination entre les États membres. Cela déclencherait l'achat conjoint de matériel médical et, par exemple, le déploiement, si épidémie, des équipes d'assistance. Pour mieux accompagner les États membres, nous proposons également de donner plus de responsabilités et donc de pouvoir et de ressources à nos agences déjà existantes.
Voilà les mots de la présidente de la Commission pour aller vers plus de coordination, coopération. C'est vrai que c'est des mots qu'il est nécessaire de rappeler aujourd'hui. On a l'impression que cette coordination, au début de l'épidémie, et vous l'évoquiez, Daniel Cohn-Bendit, elle n'a pas si bien fonctionné, que peut-être aujourd'hui, l'Europe, l'Union, va enfin pouvoir jouer son rôle. On va juste rembobiner un tout petit peu le film ensemble. L'Europe a été particulièrement touchée dès les débuts de la pandémie, avant les États-Unis et l'Amérique du Sud. Au printemps dernier, les retards au démarrage ont été remarqués, l'absence de solidarité, notamment à l'égard du nord de l'Italie, avant une division générale sur les coronabonds. Ce qui a manqué, c'est donc cette coordination-là, mais aussi cette solidarité. C'est un mot qui est important aujourd'hui, Daniel Cohn-Bendit, à remettre sur le devant de la scène.
Oui, c'est très important. Et là vraiment où le bas blesse, c'est vrai que quand il y a eu cette explosion de la pandémie en Lombardie, disons la solidarité a été poussive. Elle a existé, il y a eu une reprise de malades d'Italie vers certains pays européens, mais ça a été poussif parce que tout le monde, tous les gouvernements et je veux dire toutes les sociétés ont été surprises par la terrible force de la pandémie. Il faut pas se cacher, on a été surpris. Alors vous aviez un pays comme l'Allemagne, par exemple, qui a mieux résisté, et là on revient à ce que vous avez dit tout à l'heure sur le fédéralisme et le centralisme, parce que l'Allemagne, par sa gestion fédérale de la santé, étant donné que ce sont les Länder qui sont responsables de la santé, avait une meilleure infrastructure avant la pandémie des hôpitaux. La critique de la gestion de la santé en Allemagne était de la même qu'en France. C'était une gestion néolibérale. On fermait des hôpitaux, on fermait des lits, etc. Et pourtant, au moment du début de cette crise, l'Allemagne avait plus de lits et donc avait une plus grande capacité de répondre à la première vague. Je crois que c'est lié au centralisme. Alors tout le monde me dit, mais c'est pas vrai. Regarde l'Italie, regarde l'Espagne, qui sont aussi des États fédéraux, peut-être un peu différents de l'Allemagne, mais quand même des États fédéraux. Je dis oui, mais les États fédéraux allemands ont une plus grande autonomie économique et financière que par exemple l'Italie et l'Espagne. Mais que il est bien possible aussi que c'est pas parce qu'on a le fédéralisme que maintenant, région par région, il y a une bonne, gestion de la santé. L'Allemagne a mieux géré, avec son fédéralisme, la santé au niveau régional, c'est-à-dire au niveau des Länder.
Il a fallu attendre l'été et l'adoption d'un emprunt commun de 750 milliards d'euros pour que cet élan semble être retrouvé. Or, depuis la mi-novembre, Daniel Cohn-Bendit, l'Europe est à nouveau divisée sur le plan de relance avec ce veto de la Pologne et de la Hongrie qui bloquent la procédure. Et on sait par ailleurs que les États ont quand même dépensé plutôt sans compter en confinant, notamment pour lutter contre l'épidémie. Risque de se reposer très prochainement la question de la dette qui va devenir épineuse. Si pour l'instant la contrainte avait été un peu relâchée, elle risque de revenir. Comment ça peut se passer, cette question maintenant du plan de relance? Est-ce qu'il faut aller outre, comme c'est envisagé, le veto hongrois et polonais et prendre une décision à 25 au risque de perdre deux États membres maintenant?
Alors, d'abord, il faut souligner que le plan de relance a été un saut qualitatif énorme grâce à l'initiative, alors on peut dire franco-allemande ou germano-française, comme vous voulez, mais que cette initiative commune qui a permis justement donc un emprunt par l'Europe, ce que moi j'étais 20 ans député européen, ça a été toujours refusé en priorité par des pays comme l'Allemagne, la Hollande et les pays nordiques. Et c'est vrai que l'Allemagne et la France se sont entendus sur ce plan de relance, ce qui a permis, avec difficulté, voyant la réaction de la Hollande ou de la Finlande, du Danemark, etc. Mais on avait réussi à quelque chose d'extraordinaire, avec cette idée de rembourser cet emprunt européen par des ressources propres européennes. Et que l'Allemagne avait longtemps refusé ses ressources propres, c'est-à-dire le budget européen, c'était les États membres qui, par quote-part, payaient le budget européen. Et là, on disait non, l'Europe a des possibilités d'avoir des ressources propres. Donc ça a été un grand bond en avant. Et puis il y a eu, il faut le dire, le débat parallèle qui était le débat sur l'État de droit, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait quand un État membre ne respecte pas les valeurs communes et l'État de droit européen. Et là, il y a eu un accord entre le Parlement et la Commission européenne qui, justement, intègre maintenant dans la gestion du budget l'État de droit. C'est-à-dire, si un pays est condamné pour non-respect de l'État de droit, eh bien, il peut être, si vous voulez, puni par des restrictions budgétaires.
Et ça, c'est bien? Vous trouvez ça bien? Pardon, Daniel, comme dit, oui, c'est vrai que vu de l'extérieur, on a un peu du mal à comprendre pourquoi on conditionnerait l'un à l'autre, en fait.
Mais parce que, si vous savez, comme on dit que l'Europe est une communauté de valeurs, si un pays ne respecte pas, et vous ne pouvez pas l'expulser, ça n'existe pas, quels sont les moyens de sanction pour lui dire « ça ne peut pas continuer comme ça » ? Et dans un monde marchand tel qu'il est, la seule vraiment punition, c'est l'argent. Parce que les Polonais, les paysans polonais, et ils ont besoin des fonds structurels. Monsieur Orban aussi. Alors le pire, c'est que lui, il s'en met une partie dans sa poche privée. Mais ça, c'est un autre débat. Enfin, c'est un débat qui va avec. Et donc, je trouve ça, je vois pas pourquoi vous comprenez pas. C'est quand même simple, voilà. On a décidé en commun de mettre sur place une politique avec un système de valeurs qu'on a reconnu dans la charte des droits fondamentaux, ratifié par tous les pays européens. Et qu'est-ce qu'on fait si on ne le respecte pas? Eh bien, une sanction budgétaire est une possibilité, et je trouve ça très juste.
Alors, on a entendu vos propos.
Vous n'êtes pas convaincu?
Si. Non, j'entendais vos propos. Enfin, si ou non, c'est pas à moi de l'être ou pas, c'est d'essayer de comprendre. Si, non, depuis quand on conditionnait, effectivement...
Depuis quand on ne l'a pas fait?
Le financier aux droits de l'homme. Et oui, j'entends vos propos qui sont très, très, très critiques et accusateurs à l'égard de la Hongrie et de Orban. Et je me dis que c'est peut-être pas comme ça qu'on va les faire revenir dans le giron, si c'est ce que vous souhaitez, ce que Bruxelles souhaite aujourd'hui. De l'Union européenne. Comment impliquer tout le monde? C'est ça la question. Comment concerner?
Oui, mais comment impliquer tout le monde? On ne peut impliquer tout le monde que s'il y a un minimum de respect des valeurs communes. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Comment impliquer la Pologne si, c'est pas moi qui le dis, si le tribunal européen condamne la Pologne, par exemple, dans sa gestion de la justice? Qu'est-ce que vous faites? Vous dites, oh ben c'est pas grave, bon d'accord, non-respect, on peut rien faire. Si on condamne la Pologne, la Hongrie, pour son comportement en ce qui concerne la liberté de la presse, en ce qui concerne des tas de choses pourquoi ils ont été condamnés, la liberté de l'information, etc. Vous dites, bon, c'est pas grave, d'accord, ils ont été condamnés, mais on peut rien faire. Le seul moyen qu'a l'Europe d'être à la hauteur des condamnations du tribunal européen, c'est par le budget. Sinon, qu'est-ce que vous voulez faire? Sinon, ben, vous laissez faire, et M. Orban est très content, il continue d'organiser sa démocratie illibérale, et tout le monde dit, ben, c'est la vie.
Mais c'est quoi l'Europe, en fait, aujourd'hui, pour vous, Daniel Cohn-Bendit? Quand on sent qu'il y a des telles divergences,
l'Union européenne,
des telles scissions de valeurs au sein de l'Union.
Parce que depuis, disons, le traité de Rome en 57, le monde a évolué. Mais regardez, l'Europe, c'est l'Union européenne. Aujourd'hui, ce sont 26 États membres. Voilà. Qui sont reliés par des traités et par une charte des droits fondamentaux. Ça, c'est, si vous voulez, la colonne vertébrale de l'Union européenne. Et puis maintenant, vous pouvez dire, est-ce qu'on respecte ou pas la charte des droits fondamentaux, c'est-à-dire les libertés qui sont... Cette charte va très loin, plus loin que toutes les constitutions prises une à une des États européens, si on les compare, sur la liberté de l'orientation sexuelle, la liberté de la presse, de la communication, etc., etc. Donc, à partir de ce moment-là, c'est ça l'Europe. C'est une volonté de vivre et de travailler ensemble dans un monde qui, en se globalisant, devient de plus en plus difficile à maîtriser. Et donc, l'Union européenne, les Européens, veulent et doivent, si vous voulez, eh bien, trouver une possibilité de réguler de proposer des régulations pour la mondialisation.
Mais c'est donc aussi, malheureusement, Daniel Cohn-Bendit, vous dites c'est ça l'Union européenne, mais c'est aussi une grande difficulté à s'accorder et à se mettre d'accord dans des situations d'urgence, comme ça a été le cas avec la crise sanitaire. Et comme on le voit aujourd'hui sur la question du plan de relance, beaucoup d'États et les populations ont besoin de ce plan de relance et de l'argent qui va avec. Et on entend les tensions qu'il y a eu hier sur les coronabonds, aujourd'hui autour du non hongrois et polonais. Est-ce que vous pensez qu'il faut une nouvelle organisation, un nouveau système de vote pour donner à l'Europe la possibilité d'agir plus facilement dans l'urgence? Est-ce que l'Europe est assez outillée pour cela?
Moi, je serais absolument pour reprendre le débat sur la Constitution européenne et justement de pouvoir laisser derrière nous ce qui est la chose la plus bloquante, si vous voulez, c'est l'unanimité. Mais il y a un problème qui est dingue, c'est que vous ne pouvez réformer l'unanimité que dans l'unanimité, qu'avec l'unanimité. C'est ça. Vous savez, c'est comme la difficulté de réformer la Constitution française. Et puis vous dites des divergences. Mais regardez les divergences qui existent dans les États membres. Regardez les divergences qui existent en Allemagne entre les Länder. L'Europe est à l'image des divergences qu'il existe dans les États membres. Enfin, vous n'allez pas me dire qu'en France, il y a un accord, quel qu'il soit, sur comment gérer la pandémie. Et si vous savez... L'Europe aujourd'hui, par exemple, a fait un effort extraordinaire. C'était un compromis difficile, le plan de relance. Il y a deux États qui aujourd'hui... qui veulent profiter du plan de relance, c'est ça qui est extraordinaire, mais qui ne veulent pas d'un autre côté toute la partie qui, pour le budget, dépendra aussi de l'état de droit. Eh bien, moi, je suis pour régler ce problème à 25. Ça va être c'est difficile, c'est pas facile. C'est-à-dire de faire un plan de relance à 25, et puis... Les Polonais et les Hongrois ont deux possibilités. Ou ils disent on ne veut pas et ils ne seront pas dedans et ils n'auront pas d'argent. Et puis sur le budget, ben le budget il existe. Si vous n'avez pas un nouveau budget, on prend le budget de la période antécédente et c'est 1/12 chaque mois du budget de la période antécédente antécédentes pour le budget d'aujourd'hui. Et puis ça peut fonctionner. Et comme ça, c'est un bras de fer où il y a un moment, le gouvernement polonais, Monsieur Orban, dit « j'accepte le règlement commun ou je sors ». C'est comme ça la vie.
Hier, Daniel Cohn-Bendit, on a eu la guerre des masques. Est-ce que vous pensez que demain, une bataille des vaccins est possible? Pour l'instant, il y a cette découverte, cette recherche qui a été développée par BioNTech et Pfizer. Est-ce que vous pensez que la recherche européenne va être créditée de cela? Ou est-ce que la suite à cela, ça va être dans la distribution, dans l'accès aux vaccins, une instrumentalisation de cette question? On le voit déjà, c'est en train de commencer en Grande-Bretagne, au service des pro-Brexit.
Oui, mais attendez, la Grande-Bretagne, ils sont plus dans l'Europe. Moi, je vous prenais pour un... Oui, c'est un des problèmes, si vous voulez, du Brexit, c'est que les Anglais ont une conception un peu bizarre des fois des choses. Et que, évidemment, de dire que aujourd'hui les premiers vaccinés ce sont les pro-Brexit, je simplifie, on simplifie un peu, c'est pas tout à fait comme ça, mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. Alors demain, c'est les premiers vaccinés en France, c'est ceux qui sont pour la majorité en Allemagne. Enfin non, mais c'est impensable. C'est impensable. Et donc, moi je crois que le problème des masques, il faut qu'en France, qu'on comprenne une chose. Tous les pays européens ont fait une erreur sur les masques. Aucun pays européen n'avait des masques. Aucun. Je peux vous sortir ce que disait le ministre de la Santé allemand. Mais non, les masques, c'est pas nécessaire. On peut faire la distanciation, etc. Comme en France. Après, il y a eu le problème de l'approvisionnement, c'est-à-dire comment maintenant on arrive le plus rapidement. Et là, c'est vrai. Qu'au contraire du vaccin, on n'a pas délégué à l'Union européenne de s'imposer sur le marché, et donc chaque pays a fait comme il peut en ne regardant pas à droite ou à gauche. Donc ce qu'on a appris avec les masques, c'est les vaccins, c'est l'Union européenne qui a géré l'acquisition des vaccins, et donc il y aura une répartition qui est solidaire des vaccins en Europe. Et dans les pays, ce sont évidemment les gouvernements qui décideront comment répartir les vaccins.
Invité jusqu'à 13h30, Daniel Cohn-Bendit est avec nous pour ouvrir cette semaine spéciale Europe autour de votre grande table culture et idées. Il sera beaucoup de questions d'Europe aussi, parce que Conseil européen les 10 et 11 décembre, parce que cette semaine aussi les dernières tractations, négociations autour du Brexit se jouent. On continue à en parler avec notre invité.
France Culture, la grande table, Olivia Jesbert.
Vous évoquiez la Constitution à l'instant, Daniel Cohn-Bendit, dans les colonnes du Journal du Dimanche. Hier, un ancien député européen, lui aussi ancien ministre délégué aux Affaires européennes, c'est Alain Lamassoure, qui racontait l'aventure de cette convention constituante présidée par Valéry Giscard d'Estaing. Du téléphone décroché par VGE pour appeler Chirac puis Schröder et les convaincre de lui confier cette présidence, de la rédaction du traité, des discussions du...
C'était plus drôle.
Oui, du projet Prodi concurrent. Qu'est-ce qui était plus drôle?
Ah bah c'est plus drôle, il fallait, moi, Valéry Giscard d'Estaing m'a raconté comment ça s'est passé. Ah, c'est du grand cinéma.
Pour convaincre Jacques Chirac et Gérard
Valéry
Schröder,
Valéry Giscard d'Estaing, non, vous allez voir. Valéry Giscard voulait la présidence de la Convention. Il téléphone à Chirac, je veux la présidence de la Convention. Mais oui, c'est une très bonne idée, lui dit Chirac. Très bonne idée, je vais tout de suite proposer ça à mes partenaires. Il téléphone 3 jours après. Ah, on a un problème. Monsieur Aznar n'est pas d'accord. Valéry Giscard d'Estaing dit, ah, mais je m'en occupe. Ne vous en faites pas. Il téléphone à Aznar. Il dit, alors c'est vrai, t'es pas d'accord que... Mais non, moi j'ai rien dit. Je suis tout à fait d'accord. Valéry Giscard d'Estaing téléphone à Chirac. Aznar est d'accord. Ah, bon, très bien. Ben, on va continuer. 2 jours après, Chirac téléphone et dit, ah, je m'excuse, mais Schröder n'est pas d'accord. C'est un problème et tout ça. Giscard d'Estaing dit, ne vous en faites pas. Je vais m'en occuper. Il téléphone à son copain Helmut Schmidt. Il dit, Helmut, tu te rends compte? Schröder ne veut pas que je m'en occupe, lui dit Helmut. Helmut téléphone à son copain Gerhard. Il dit quoi? T'es pas d'accord que, ah ben non, nous on n'a jamais dit ça. On a toujours dit, dès le début, que c'est la France qui choisirait le président de la Convention. Et ça, j'ai pu le vérifier avec mon copain Fischer, qui dit que c'était exactement, dès le début, la position de l'Allemagne. Donc, Giscard téléphone à Chirac et dit, mais Schröder est tout à fait d'accord. Et c'est comme ça qu'il a eu la présidence. Jamais il a été question de convaincre Schröder. Il fallait enfin forcer la main à Chirac, qui ne voulait pas le donner à Giscard. On comprend pourquoi si on connaît leur histoire.
Voilà. Et après, il a quand même réussi à obtenir ce dont il rêvait, ce qu'il voulait, cette présidence. Il s'est entouré de toute une fine équipe. Les discussions ont commencé. Il y a eu ce contre-projet Prodi, ce projet Prodi concurrent. L'adoption ensuite de ce texte, son rejet par la France. Bref, la Constitution Giscard. Est-ce que ça reste une boîte? Attendez, on va l'écouter et je vous donne la parole. Est-ce que ça reste une boîte à outils et un état d'esprit? On écoute Valéry Giscard d'Estaing.
Je vais maintenant vous parler dans une langue dont chacun va deviner qu'elle n'est pas ma langue maternelle. Permit me one final word, à titre personnel. I wish to pay tribute.
Je voudrais rendre hommage à vous.
The conventionals. You have proved
vous avez
that the convention method
prouvé
works.
Que la méthode de la convention fonctionne.
You have ensured
vous avez
by our success that the convention
fait en sorte que grâce
lasts.
À notre succès, les efforts perdureront.
Because we have listened
nous avons
to each other
réussi. Pourquoi? Parce que nous nous sommes écoutés mutuellement.
And useful phase d'écoute.
Voilà, c'est intéressant quand il parle de cette phase d'écoute, de cette coordination, hein, comme on l'évoquait Daniel Cohn-Bendit, cette utopie européenne. Oui, Giscard, il a été une voix pour l'Europe. Est-ce que vous trouvez dans ce projet encore les graines d'un nouvel espoir, d'un rebond aujourd'hui encore?
Mais vous savez ce qu'on a oublié? C'est que quand Giscard parle comme ça, il parle simplement du premier chapitre de la Convention. C'est-à-dire que pendant des mois, vous avez le premier chapitre qui a été décidé par la Convention. Giscard est arrivé avec ce premier chapitre au sommet de Thessalonique. Et là, les Britanniques ont dit, nous ne ratifierons pas s'il n'y a pas, et ils ont dit, il faut mettre dans cette constitution tous les traités antécédents. Et c'est là où on a eu cette deuxième partie qui a foutu la merde, pour le dire exactement, pour le refus français, et donc qui a dénaturé la convention. Et donc c'est parce qu'on a dit oui aux Britanniques qu'on a dénaturé la Constitution pour qu'après ils nous fassent un bras d'honneur. Voilà la vérité. Et l'état d'esprit de la Convention qu'on retrouve, qui a été négocié pendant des mois, alors que la deuxième partie a été négociée, écrite en 4 jours, ce qui est une folie totale. Mais parce qu'on était avec l'unanimité, eh ben on a dû faire comme ça et on s'est fait avoir.
Mais il y en a beaucoup qui ne voulaient pas, et c'est pour ça que ce texte n'a pas été voté à ce moment-là, par référendum en tout cas en France, d'un approfondissement
ils auraient voté le premier
de l'intégration.
La première
peut-être. Mais aujourd'hui, vous...
Non, pas peut-être, sûrement, ils le disent tous.
Quel sens donnez-vous à cette idée de fédération franco-allemande que vous portez dans les colonnes du Monde? C'était le cas encore en septembre dernier. Si vous aviez en face de vous un souverainiste, comment vous essayeriez de le convaincre de la nécessité d'aller plus loin ensemble?
Et parce qu'on n'y arrive pas, parce que la France, vu le monde d'aujourd'hui, on n'y arrive pas. On n'arrive pas économiquement, on n'arrive pas politiquement. Je veux dire, vous avez les big players, comme on dit en français. C'est-à-dire, vous avez la Chine, vous avez la Russie, vous avez les États-Unis, et puis nous, la France ou Malte ou Luxembourg, on n'est rien. L'Allemagne, on n'est rien face à ça, on ne peut rien. Donc je dis, moi, je veux justement être capable de défendre nos modes de vie, de défendre notre capacité à gérer le monde d'aujourd'hui. Et ça ne peut passer notre souveraineté, votre souveraineté, ma souveraineté, notre souveraineté, qu'elle soit française ou allemande, dépend de notre capacité d'organiser cette souveraineté commune qu'on appelle l'Union européenne.
Alors sur des communs européens, sur des communs européens au-delà de la monnaie, il y a juste un thème, il nous reste une minute, important, c'est la transition écologique. Elle sera aussi absolument au menu du Conseil européen de jeudi. Vous êtes écologiste depuis toujours, Daniel Cohn-Bendit. Est-ce que cette transition peut être pour vous la grande gagnante ou la perdante de cette crise ? Gagnante avec peut-être l'importance retrouvée de protéger l'environnement, de repenser les différentes formes du vivant. Perdante parce que quel argent pour la financer aujourd'hui ? Est-ce qu'elle va vraiment être prioritaire ?
Ah ben elle doit être prioritaire et c'est le grand débat. C'est le grand débat maintenant cette année. C'est-à-dire que la transition écologique dans un seul pays, c'est du bidon. Ça nous fait plaisir, mais c'est du bidon. C'est comme le socialisme dans un seul pays. Donc nous avons besoin de la transition écologique. L'Europe doit être une force motrice dans la transition écologique planétaire, justement pour poser les jalons de cette transition. Et je crois que justement, disons, le plan de relance proposé par la France et l'Allemagne et puis accepté par 25 sur 27, c'est l'idée qu'il faut un grand plan européen de la transition écologique, qui est d'ailleurs une des propositions de la Commission qu'il faut amender, on doit aller plus loin, mais c'est que comme ça, une transition écologique française simplement, ou allemande, mais c'est de la rigolade. C'est de la rigolade.
Demain, nous recevrons Chantal Mouffe, la philosophe belge.
Ah oui, elle dira pas la même chose.
Ouais, pour évoquer la place du peuple en démocratie en temps de pandémie. Ça va être aussi une autre question pour les jours, les semaines et les mois à venir. On en rediscutera avec elle. Merci beaucoup à vous, Daniel Cohn-Bendit, d'avoir été avec nous en direct de Francfort pour ouvrir cette grande table spéciale Europe toute cette semaine. Merci. Un grand merci à toute l'équipe. Merci à toute l'équipe de la Grande Table Semaine, coordonnée par Henri Leblanc, à la Grande Table Culture, Oriane Delacroix, à la Grande Table Idée, Jean Bulot. Merci pour leur préparation à Laura Dutèche-Pérez, avec l'aide précieuse d'Anouk Delfino et de Madeleine Martineux à la réalisation aujourd'hui. C'était Thomas Beau avec Déborah Dacobert.